about you. Are you raising or watching?
La dispute,
émission spéciale.
Arnaud Laporte.
Une dispute particulière ce soir puisqu'elle va nous permettre d'entendre une parole devenue rare, celle de Pierre Soulages. L'artiste qui fêtera son 100e anniversaire le 24 décembre prochain nous a reçus cet été dans sa maison à Sète en compagnie de son épouse Colette avec qui il vient de fêter 77 ans de mariage. C'est avec Éric de Chassé, historien de l'art, directeur de l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, que nous avons interrogé le peintre. Et c'est avec Éric de Chassé que nous allons ouvrir cette émission avant de vous proposer d'écouter ce grand entretien. Éric de Chassé, nos auditrices et auditeurs vont découvrir dans quelques minutes l'entretien que nous avons enregistré ensemble. C'était au cœur de l'été, à Sète, dans la maison de Pierre et Colette Soulages. À quand remonte votre première rencontre avec Pierre Soulages ?
Je crois que la première rencontre doit avoir eu lieu au moment de l'exposition de Pierre Soulages au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris au début des années 1990, ou au milieu des années 1990. J'étais à l'époque pigiste pour Beaux-Arts Magazine et on m'avait demandé d'écrire un article sur Pierre Soulages dans lequel j'avais écrit que Soulages était véritablement intéressant entre 1946 et 1949 et qu'il redevenait intéressant depuis quelques années au moment de l'exposition. Et donc je l'ai rencontré dans ces circonstances-là quand donc ce très grand monsieur s'est approché de moi et m'a dit une phrase qui était du style « Jeune homme, ça serait bien qu'on se parle un peu ». Et voilà, à partir de là, on s'est vu effectivement de loin en loin et sur un mode qui était inauguré par une rencontre marquée par une certaine franchise, on va dire.
Qui lui ressemble bien. L'actualité de Pierre Soulages, ça va être l'ouverture le 11 décembre prochain de son exposition au Musée du Louvre, quelques jours avant son 100e anniversaire, le 24 décembre. Alors vous-même, vous avez, alors quelques années après, évidemment, cette première rencontre, conçu une double exposition, Pierre Soulages, au Musée des Beaux-Arts de Lyon et à la Villa Médicis, que vous dirigiez alors. C'est difficile de monter une exposition Soulages ?
C'est difficile, comme toute exposition, je pense. C'est difficile parce que c'est un artiste qui sait où il se trouve dans l'histoire de l'art, qui a une forme d'exigence très grande, qu'on arrive après beaucoup d'autres qui ont monté des expositions et dont le nom forme une sorte de litanie de grands aînés, dont beaucoup disparus, mais avec des noms très prestigieux. Donc peut-être qu'on se sent une certaine responsabilité. Et en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui est capable véritablement de se remettre en question. En tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme expérience dans le fait de travailler ensemble pour des expositions. Je crois en fait que la première fois que j'ai montré une œuvre de lui, c'était dans le cadre d'une exposition au nom assez stupide, La Force de l'Art, qui voulait célébrer la scène française en 2006. Et je m'étais dit qu'il était important de montrer Soulages dans ce contexte-là. Et ses œuvres voisinaient avec des tableaux de Emmanuel van der Meulen, qui à l'époque devait avoir 30 ans, je crois. Et lui en avait donc déjà 90 bien sonné. Et peut-être que ça éclairera ce que vous appelez la difficulté. Quand il m'a proposé une œuvre, j'ai vu cette œuvre et moi, je n'en étais pas absolument convaincu. Et on a pas mal discuté ensemble du fait de savoir pourquoi ça n'était pas une œuvre satisfaisante pour cette exposition. Et il m'a dit « mais donnez-moi un peu de temps ». Et puis, 15 jours après, je pense, il m'a appelé et il m'a dit « j'ai fait un autre tableau, venez voir l'autre tableau, peut-être que... » Voilà. Je dis ça parce qu'on n'est pas dans ce genre de relation-là avec tous les artistes. Et qu'il ne s'agissait pas pour lui ni de dire « c'est vous qui avez raison », ni de dire « puisque vous voulez faire quelque chose, il n'y a pas de raison que nous discutions, etc. » Donc c'est très enrichissant. Et en même temps, moi j'ai toujours pensé qu'une exposition réussie, c'était un dialogue. Donc Il m'a donné la possibilité de faire certaines choses sur lesquelles lui n'était pas certain du tout, en essayant à certains moments de reprendre le contrôle, et moi essayant de faire en sorte qu'il ne le reprenne pas trop et que je puisse montrer son travail de façon un peu différente de ce qui avait été fait auparavant. En particulier à la Villa Médicis, pour la deuxième version de cette exposition, j'ai essayé des choses qui n'avaient pas été faites avant et qu'il avait l'air d'en être assez content. Et ou moi, évidemment, quand un artiste de cette stature a l'air assez content, j'étais assez content aussi.
Éric de Chassé, il y a cette idée très reçue, très banale, selon laquelle le travail de Pierre Soulages est toujours la même chose, du noir. Il y a pour certains une négation de sa recherche, alors que si l'on y regarde de près, me semble-t-il, c'est une œuvre qui est en perpétuel mouvement. Mais Pierre Encrevet, qui a réalisé le catalogue raisonné de l'œuvre de Soulages, postule qu'il y a plusieurs cycles dans son travail. Est-ce que vous avez le même regard ?
Oui, j'ai le même regard. Peut-être pas exactement avec la même périodisation que Pierre Encrevet, quoique si je le fais ici, je vais retomber sur les mêmes périodes. Il y a un moment d'hésitation au départ entre ce qui se fait en peinture entre 1946 et 1949, 1950, on va se dire, qui est très marqué par une forme d'école de Paris, de structure cubiste, qui donne des œuvres intéressantes, mais qui sont pas véritablement bouleversantes. Et exactement en même temps, c'est là où les périodisations et les cycles, c'est un peu compliqué. Exactement en même temps, il y a tout un ensemble d'œuvres, en particulier sur papier, et puis trois œuvres sur verre au goudron, qui sont d'une extraordinaire liberté, inventivité, et qui établissent une espèce de standard, à mon sens, de ce que la peinture de Pierre Soulages peut faire, et qui va laisser de côté pendant un très grand nombre d'années pour développer ce qu'il avait fait en peinture au départ. C'est comme si très jeune, il avait eu une intuition de ce qu'il était possible de faire de façon très radicale et qu'il avait fallu revenir à une forme de maturité très avancée pour à nouveau trouver ce genre de choses. Alors, à quel moment est-ce qu'on retrouve cette forme de radicalité ? Je dirais les années 1990. Pierre Encrevet fait une rupture nette et il est impossible de ne pas la faire avec 1979 et l'arrivée de ce qu'on va appeler l'outre noir, c'est-à-dire le fait que les tableaux soient entièrement couverts de noir, de différents pigments noirs, c'est un moment de rupture important. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient encore un petit peu après et qui n'est pas forcément systématique parce qu'en fait il y a une très très grande diversité. Qui se produit, oui c'est ça, je dirais dans les années 1990, une forme de chose qui arrive avec un âge avancé où on n'a plus rien à perdre et où on est très très isolé, puisque en fait à partir des années 1990, étant l'âge de Soulages, ça veut dire aussi que tous ses contemporains, ceux avec qui il a commencé dans la carrière de peintre, sont morts et que donc il est tout seul. Alors il était déjà avec comme principaux interlocuteurs les hommes des cavernes, mais il n'empêche que là, il est vraiment seul, et que même s'il a tout ce bagage, même s'il a toute cette réduction, je crois vraiment que quand il arrive dans l'atelier, c'est à chaque fois une aventure et qu'il ne sait pas ce qu'il va réaliser. Si on regarde avec attention, je pense que c'est ce qu'on voit. On voit cette chose avec effectivement pas beaucoup de différences extérieures, mais beaucoup de différences dans les réalisations, dans les choix, etc. C'est un cadre qui est un cadre très strict, et puis à l'intérieur de ce cadre, c'est d'autant plus libre que les règles sont limitées.
Enfin, Éric de Chassé, avant de découvrir cet entretien que Pierre Soulages nous a accordé, qu'est-ce qu'on peut dire de la place qu'il occupe déjà dans l'histoire de l'art ?
Son statut dans l'histoire de l'art, globalement, est assez assuré, c'est-à-dire d'un artiste majeur de l'art abstrait, enfin de la peinture abstraite des années 1950-1960, d'abord, qu'il place aux côtés de Nicolas de Staël et d'autres, ou aux États-Unis, d'artistes dont il a été effectivement l'interlocuteur, comme Rothko ou d'autres. Sa place pour la période, la dernière période dont j'ai parlé depuis la fin des années 90, est sans doute moins assurée pour l'instant, même si on se met à beaucoup plus regarder cette période-là, parce qu'on n'est pas dans la même lancée déterministe et progressiste, et que il faut pour ça que les choses se clarifient un petit peu, et qu'on se rende compte que il a effectivement renouvelé profondément son travail, tout au long de sa carrière, et qui n'est pas juste une grande figure de l'après-guerre. De plus en plus, c'est une place aussi reconnue internationalement, et c'est évidemment une chose importante.
La dispute, émission spéciale Pierre Soulages, Arnaud Laporte.
Pierre Soulages, nous sommes ici chez vous, à Sète, dans cette maison dont vous avez dessiné les plans avec votre épouse Colette, qui est à vos côtés. Les lieux de travail, c'est important parce qu'on est même ici dans votre atelier. C'est ici, chez vous.
Je ne suis pas aussi chez moi.
Vous vous posez cette question depuis longtemps, savoir où c'est chez vous ?
Probablement. Mais j'ai dû répondre ce que je viens de répondre. Chez moi, c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse et qui est plus devant moi que derrière. C'est pourquoi j'ai dit, j'hésite.
Et la conception de cette maison, ici où nous sommes ?
Nous étions venus à Sète. Nous passions tous nos étés à Paris. Le mois d'août n'était plus ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il était déjà envahi par des gens qui, par le tourisme. On a eu envie de trouver quelque chose ailleurs. Nous cherchions donc une vieille maison, quelque part, plutôt du côté de Marseille, d'ailleurs. Mais il y avait les parents de Colette qui étaient ici. Ils sont venus les embrasser. Et ils savaient que nous cherchions. Alors, sa mère avait cherché un marchand de biens qui nous a montré des petites maisons, ce qu'on appelle à Marseille des cabanons, ici, ça s'appelle des baraquettes. Et c'était pas bien, c'était pas possible. Le voisinage était impossible. Et nous repartions. Et au moment où nous repartions, quand même, le marchand de biens qui est venu passer, il a dit, écoutez, il y a une maison qui pourrait vous intéresser, personne n'en veut, mais le lieu est très bien, vous savez, la maison est une assez belle maison, mais il y a beaucoup de travaux. Alors, venez voir tout de même. Et on est tombé sur cet endroit où il y avait une maison ridicule, typique de la fin du 19e, la petite bourgeoisie concurrente. Mais cette vue était étonnante. Et Colette me dit, mais si ça te plaît, rasons la maison. C'est ce qui a été fait. Alors nous avons acheté, nous avons détruit. Mais à partir du moment où elle a été rasée, il fallait en faire une autre. Et ils ont fait du plan. Ils ont pris un jeune architecte. L'erreur a été faite, qu'il était jeune. Enfin, nous avions déjà choisi les emplacements. Alors, il a voulu nous proposer j'ai gardé. Heureusement, d'ailleurs. Parce que comme c'est lui qui a présenté le projet, il s'imagine que c'est lui qui a fait la maison. Alors, heureusement, j'ai gardé son projet. Alors, la maison, c'était le soleil et le vent. Le soleil, c'est-à-dire que l'été, le soleil n'entre pas. Le 22 juin, il reste dehors. Et le 22 décembre, il est jusqu'au mur du four. Et ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est la simplicité même pour le faire. J'ai pris un fil à plomb, j'ai mis un mètre, et à midi, le 22 décembre et le 22 juin, on a pris la longueur de l'ombre. C'est la même chose que le mur, la même proportion.
Et juste encore un mot peut-être sur cette maison, parce que dans votre salon, quand on voit la mer, on a l'impression que vous êtes seul au monde.
Partout, partout. Cet endroit d'ailleurs, je ne sais plus, mes amis qui me disaient, Valérie a écrit que Sète était une île singulière, et dans cette île singulière, tu en as fait une autre, c'était sa maison. On est très isolé, on n'entend rien, aucun bruit, quelquefois un avion.
Mais c'est important pour vous d'avoir cet horizon, la mer, face à vous.
C'est pas mal. Alors, j'ai été amené à réfléchir sur les horizons. Parce qu'il y a des horizons qui sont vastes, mais on les voit en bougeant la tête. Eh bien, celui-là, on ne peut pas. Il faut se déplacer. C'est pas mal. Ça crée quelque chose de vaste. Une vastitude.
Parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse aujourd'hui en venant
vous rencontrer, c'est de parler d'un futur proche, bon, qui est cette exposition qui ouvrira le 11 décembre prochain au Musée du Louvre, mais pour parler avec vous du présent, en fait, Pierre Soulages, parce que je crois que c'est ça qui est important. Et peut-être commencer par là, tout simplement, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours au travail? Qu'est-ce qui fait que chaque jour, vous travaillez?
Parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire. D'ailleurs, travailler, c'est un mot que je n'aime pas. J'ai l'impression que je n'ai jamais travaillé. Mais c'est probablement beaucoup plus fatigant que le travail, si on parle de travail.
Le mot ne vous convient pas, travail?
Pas beaucoup, non.
Est-ce que le mot recherche, ça vous convient mieux?
Non plus. Curiosité, oui. Devant ce que je ne connais pas. Et plus j'avance, plus je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne connais pas.
C'est une forme de progrès dans votre art, de vous dire que plus vous avancez, et moins vous en savez?
Non, pas dire ça. Mais j'essaie de juger ce que je fais sans penser à ce que j'ai déjà fait. Mais c'est quand même toujours présent. Et même le fait de ne pas y penser est même peut-être plus actif, plus important que si j'y pensais.
Est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous arrivez dans l'atelier, c'est comme si c'était complètement nouveau, comme si vous repartiez à zéro avec chaque toile?
Non, on ne repart jamais à zéro. Ça, c'est une naïveté. Même quand on croit avoir tout oublié, il y a des choses qui sont présentes et qui sont importantes. Je ne sais pas parce qu'on les a oubliées qu'elles font partie de choses qu'on a décidé de retenir. C'est pas... Ce sont des mots. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe entre la surface sur laquelle je peins et les outils avec lesquels je peins et la matière que j'emploie. On peut dire que ce serait toujours la même chose, mais ce n'est pas exact. Enfin, vous m'obligez à penser à ce que j'ai derrière moi. Et ça, je fais un effort. Je ne suis pas sûr que ce soit bien. Enfin, c'est ce que je préfère.
Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement arriver dans l'atelier? Arriver dans l'atelier et commencer une nouvelle toile, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord la sélectionner?
Arriver à l'atelier et attendre d'oser. Parce que tout ce qu'on peut faire dans l'atelier, c'est là. Les surfaces sur lesquelles on peut travailler, les outils que l'on peut avoir. D'ailleurs, quand les outils dont on peut disposer dans l'atelier ne sont pas là, eh bien, je les fabrique. Et ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Très, très tôt, j'ai fabriqué mes outils. Et sur le moment, d'ailleurs. Sans y réfléchir longuement, et sans pas du tout. Mais quand j'ai senti le besoin d'avoir une surface, eh bien, je cherche autour de moi ce qui me permet de produire cette surface dont j'ai envie. Et je commence, et puis ça va à autre chose. Et ce dont j'avais envie, pratiquement oublié, au profit de ce qui apparaît, et que je n'ai pas attendu. Et c'est comme ça que j'ai mis à l'atelier. Sinon, si je fais ce que j'ai prévu, je le fais certes parfois, mais quand quelque chose apparaît que je n'ai pas prévu, c'est probablement même là que se trouve ce qui m'intéresse le plus. Voilà pourquoi aussi je peins. Mais ça, il arrive, c'est toujours de grandes surfaces. Il y a quand même des constantes qu'on peut retrouver. Je vais m'avoir une certaine surface, pas toujours d'ailleurs. C'est très variable au fond.
Cette surface-là, cette surface plate, rectangulaire, elle suffit pour être toujours nouvelle?
Oui, et quelquefois, le rectangle... C'est moi qui le choisis, dans ses dimensions, dans ses proportions, mais pas toujours. Récemment, en pensant à un accrochage que l'on me proposait, je pensais à autre chose, je pensais à l'accrochage, je pensais plus à une toile. Je me trouvais dans la nécessité de faire des toiles de 4 mètres de haut, mais je n'aurais jamais imaginé de sang-froid. C'est quand on m'a proposé une exposition... Il manquait une chose importante, C'était une ou deux verticales, mais c'est ce qu'on me proposait qui m'a poussé à faire ça. Si on m'avait dit « faites-moi deux peintures de 4 mètres de haut », il est probable que j'aurais ri. Mais à ce moment-là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de l'objet qui était un ensemble de toiles de plusieurs époques. Et l'accrochage était tel qu'il y avait la nécessité, à mes yeux, d'une ou deux grandes verticales. Et je me suis mis à travailler dans ce sens-là. Mais c'était poussé par ces gestes qui existaient. Or, ce n'est pas toujours le cas quand je peins. Quand je peins, c'est même le contraire, oui. Là, vous m'amenez à réfléchir et à penser comme je ne le fais pas.
Il y a une toile
vierge. Il y a 50 ans qu'elle est là.
C'est ce que j'allais dire. Non, mais elle a toujours été là. Donc pourquoi cette toile blanche, qui est la première chose qu'on voit dans l'atelier, parce que quand on rentre dans l'atelier, les toiles sont retournées contre le mur, et la seule qui n'est pas retournée contre le mur, c'est cette toile vierge, qui n'a pas l'air d'avoir vocation à être peinte, parce qu'elle prend la poussière, c'est tout.
Elle est beaucoup plus mûre que peinture. Elle est mûre elle-même. Il y a 60 ans que nous sommes ici. Et certaines boîtes qui sont là n'ont pas été jetées, ou certains pinceaux même qui sont là n'ont pas été jetés, c'est le temps d'ailleurs, parce qu'ils ne servent plus à rien. Et maintenant, les choses que j'ai ici, j'ai un garçon qui est particulièrement ordonné, sans que cela me dérange. Et ça, je suis très heureux.
Vous faites brûler des toiles?
Oui.
Pourquoi?
Parce que ça ne mérite pas de rester, ça n'a aucun sens pour moi, ni pour... Je veux dire, ce sont quelquefois des choses où il y avait peut-être une possibilité que je n'ai pas utilisée. Des choses que je ne veux plus voir, en tout cas. Des choses sur lesquelles j'avais pris des décisions qui étaient idiotes. Alors, je préfère les oublier.
Mais moi, je me demandais à l'inverse, en arrivant dans le salon qui donne sur la mer, il y a trois toiles. Pourquoi celle-là?
Demandez Colette.
C'est Colette qui choisit?
C'est moi. C'est là. Il a fait ça en 83. Je me suis dit, ça irait bien là. Je l'ai mis, elle y est restée. Elle est sortie qu'une fois. Hein. C'est pour aller à Centre Pompidou, il y a quelques années, là, il y a 10 ans.
Mais pourquoi tu n'y as rien là-dessus? Fais ce que tu veux, va à l'atelier, prends ce que tu veux. Et alors, elle a pris ça, et surprise, la proportion de chaque élément du triptyque, c'est la même proportion que l'ensemble des trois éléments. Et c'est la même proportion que le mur sur lequel elle s'est accrochée. Ce sont des proportions que j'utilise depuis 60 ans. Vous avez un papier derrière, dans l'angle de la porte, où il y a les proportions que j'utilise. Parce que j'ai abandonné les proportions du commerce, qui à l'origine, il faudrait faire des études là-dessus, mais déjà au 19e, c'était des proportions qui étaient plus ou moins abandonnées. Dès qu'on a pu fabriquer des châssis, dans les châssis traditionnels, il y a un châssis ou deux qui ont des proportions intéressantes, et les autres découlent à quelque chose près. C'est des approximations qui permettent de mettre en série. Un exemple, le sans paysage a une proportion qui correspond à ce type de proportion. Comme le papier à lettres que vous employez, d'ailleurs. Le papier à lettres que vous employez, c'est le 29-7. Et pourquoi 29-7? Pourquoi ces idiots-là ne sont pas allés jusqu'à 30? C'est des raisons pas très précises. La largeur, c'est 21. Vous faites un carré de 21. La diagonale de ce carré, c'est 29-7. Alors, le gros avantage, c'est que votre feuille de papier, vous la mettez la même à côté. Vous mesurez ça, c'est toujours la même proportion. Tous les rectangles que j'emploie, moi, sont liés entre eux, pas de proportion. C'est pas le pif, le hasard. D'ailleurs, dans certains cas, l'œil demande autre chose. Et alors, ça, je le fais. Mais au départ, j'utilise des formats qui sont pas ceux du commerce. Voilà.
Ce qui fait que c'est le même mur qui sert depuis 60 ans pour peindre toutes les toiles quelle que soit leur proportion.
Ah oui, ça c'est... Parce que je ne peux pas soulever les toiles. Je peux au sol souvent. D'ailleurs, à ce moment, je vais pas au sol. Si je fais une toile de 4 mètres, il vaut mieux que je reste au sol que je sol.
Vous parliez d'Alfred tout à l'heure. Lorsqu'il est venu ici il y a quelques jours, Pierre venait de faire une de ses grandes toiles comme ça. Il s'est mis à rire, mais on ne pouvait pas l'arrêter. Il riait. Mais pourquoi tu ris comme ça? Et, oh, c'est extraordinaire, il dit, quand même, je ne connais pas de peintre qui ont 100 ans d'âge et qui puisse faire une toile de 4 mètres. C'est bon. Ils la font vraiment pour le Louvre, il a dit. Et elle était par terre, parce que pour faire une toile de 4 mètres de haut, Pierre ne pourrait pas grimper sur une échelle. Mais il l'a peinte du sol, comme ça.
Ça change quoi de peindre la toile au sol pour vous?
Quand on la met au mur, il y a sûrement quelque chose qui change, mais je ne sais pas. Quand je peins au sol et que je vois sur le mur verticalement, jamais ça ne m'a mis dans l'obligation de modifier. Non, elles auraient un rapport avec le lieu où elles seront accrochées, ça c'est évident. Mais ça c'est valable pour n'importe quelle toile. Moi, je ne suis pas fanatique de ces questions de proportion. Il y a des peintres abstraits géométriques qui sont sûrement plus calés que moi là-dessus et plus attentifs. Je ne sais pas.
Vous avez parlé tout à l'heure, Pierre Soulages, des outils que parfois vous fabriquiez vous-même. Il y a les outils, il y a les matériaux. Tout ça a changé au fil des années. L'acrylique, par exemple, était un moment peut-être important pour vous. En quoi ça change le travail?
Chaque moyen que l'on emploie contient des ouvertures, des possibilités que d'autres moyens n'ont pas. C'est d'ailleurs classiquement il y a l'aquarelle, la peinture à l'huile, la transparence, l'opacité. Oui, tout ça existe toujours dans la peinture, bien sûr. Mais il est certain que les techniques que l'on emploie, les moyens que l'on emploie, les matériaux que l'on emploie, sont fondamentaux pour moi, en tout cas. Alors il faudrait évidemment, quand vous posez la question entre l'acrylique et la peinture à l'huile, on pourrait en parler d'une manière technique, comme on pourrait parler d'un plat de cuisine.
C'est important, les saveurs.
Mais ce qui est fascinant de voir comment une œuvre, une peinture, dépend et répond aux moyens employés. Quand on regarde la peinture préhistorique, très tôt je me suis intéressé à la préhistoire. C'est intéressant de voir comment la peinture, je ne veux pas dire est née, parce que ce que nous appelons la préhistoire n'est qu'une petite partie d'un passé immense. Qu'on découvre tous les jours, dont on découvre tous les jours l'immensité. Enfin, naturellement, je préférais le pinceau à la plume. L'encrier, aussi parce que c'est de l'encoloir, je crois, mais c'était aussi un liquide. Quelque chose, en tout cas, très, très différent que la pointe d'un crayon ou d'une plume. Et ça me paraissait plus... Je m'y sentais mieux. Et c'est, je crois, encore le cas.
La dispute, émission spéciale Pierre Soulages, Arnaud Laporte.
Pierre Soulages, pour revenir aux matériaux et aux supports, vous disiez que ils sont essentiels dans le travail. Il y a une période assez courte où vous avez fait beaucoup, beaucoup de vitraux. Fin des années 80, début des années 90, une centaine de vitraux en très peu d'années. Qu'est-ce que vous pouviez exprimer avec cette façon ?
Les vitraux, c'est né au départ d'une commande en Allemagne. Et ce que j'ai fait, j'essayais quand même de sortir de l'idée de la peinture vue par transparence. C'était en général comme ça qu'on regarde les vitraux. Un vitrail que je fais comme ça, qui se trouve dans un musée d'ailleurs, à Aix-la-Chapelle. Et on peut dire que c'est une mosaïque de verre. C'est des grands pavés de verre coloré, du verre qui était éclaté, ce qui crée des différences de lumière et de couleur. Mais je me suis aperçu que ce n'était jamais pensé comme une peinture. Et je me suis juré de ne plus faire de vitrail. Jusqu'au jour où j'ai été amené à en faire, mais c'était spécialement pour un endroit, pour Conques.
Et ce lieu, il avait été important dans votre jeunesse. Quand vous l'avez découvert, cette abbatiale, ça a été une découverte importante pour vous.
Bien sûr. Oui. Je n'ai pas pensé aux vitraux quand je suis. C'était. Il y en avait, sûrement. Il y avait. Je pense peut-être des. Quand j'ai connu Conques, c'était des crisailles. Mais il se trouve qu'un concours de circonstances a fait que j'étais amené à faire des vitraux à Conques. Ça a duré 8 ans. Et je suis parti d'un verre que j'ai inventé, avec lequel d'ailleurs j'ai rencontré ce que je n'attendais pas. Par exemple, des vitraux visibles de l'extérieur. Un verre qui m'a permis d'ailleurs d'avoir des surfaces de verre importantes, et non pas des petites mosaïques, des petits bouts de verre qui sont celles des chefs-d'œuvre du vitrail, que l'on connaît. J'ai fait des grands morceaux de verre où il y a, à l'intérieur même du verre, des variations d'opacité, de transparence et finalement de couleur aussi. Parce que quand il y a des variations de lumière, ce que je ne savais pas, on rencontre des variations de couleur. Le jour où j'ai fait le premier vitraux à Conques, le premier essai de vitraux, et que j'ai mis pour la première fois un grand morceau de verre en place, je me suis aperçu avec stupéfaction que le verre que je voulais incolore révélait des couleurs. Quand la lumière passait, elle était comme la lumière du jour, plutôt bleutée. Et quand elle, à cause de la structure même du verre que j'avais fait, ce pavé de verre, de grand pavé, enfin, à ce moment-là, une autre couleur arrivait. La lumière bleutée du jour, à l'endroit où elle était freinée, il manquait du bleu. Et s'il manque du bleu, qu'est-ce qu'on a ? Des autres couleurs, des couleurs plutôt orangées. À ce moment-là, je suis sorti et j'ai vu avec stupéfaction, pendant 2-3 minutes, j'ai failli abandonner. J'ai cru que j'étais perdu parce que jamais je n'avais vu des choses comme ça. Ce qui est à l'intérieur était plutôt transparent et donnait la lumière bleue. À l'extérieur, c'était sombre. Et dans la même partie du verre, l'autre endroit où il était plus opaque, à l'intérieur, c'était pas du bleu, c'était plutôt la complémentaire des bleus, vers l'orangé. Mais à l'extérieur, c'était l'inverse qui se produisait. Et ça, c'était autre chose. Alors je me suis mis à penser à faire des vitraux comme on ne les pensait pas habituellement. C'est l'exemple même que de la rencontre, d'une recherche qui aboutit à autre chose.
Et dans le cas de Conques, il y a aussi cette chose qui est que cette œuvre-là, elle est pour l'abbatiale de Conques, ce n'est pas le tableau que vous faites dans l'atelier, c'est une œuvre qui doit être en dialogue avec le lieu.
Oui, pour l'abbatiale de Conques, qui est conçue, et sa personne ne peut en disconvenir, avec la lumière. Puisque les mesures même, de manière importante, sont là. Quand on entre dans la nef, il y a le côté gauche, le côté droit, le côté de l'ombre et le côté de la lumière. Et c'est ce qui m'a guidé.
Mais est-ce qu'il y a, dans ce cas-là ou dans d'autres, parfois une forme de satisfaction devant le travail que vous avez fait, vous, devant ces vitraux, devant des toiles?
C'est surprise, d'abord. Pendant quelques minutes, j'ai failli tout abandonner, parce que c'était tellement neuf pour moi, voir ce que j'avais fait à l'intérieur, vu à l'extérieur, que je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, au contraire, je me suis bien.
Et une forme de satisfaction, alors, parfois?
Un plaisir, peut-être, oui. Oui, on peut dire ça.
Mais de quelle nature, ce plaisir?
Je ne fonctionne pas. Oui, je ne sais pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Surprise, oui. Et d'ailleurs, souvent, je m'aperçois que ce que je fais dépasse de beaucoup ce que j'ai voulu faire. Et dans le bon sens, alors. Et dans un sens que je n'aurais pas imaginé. Alors, c'est peut-être une satisfaction, oui.
En vous entendant parler de Conque, et on en a souvent parlé, je me disais, c'est une question que je n'ai jamais formulée, en peinture, pour la peinture sur toile, est-ce que vous avez eu aussi, à certains moments, ou est-ce que vous en avez besoin maintenant, eu besoin d'inventer des nouveaux matériaux? Vous avez parlé de l'invention des outils, mais qu'est-ce qui fait que la peinture telle qu'elle existe et telle qu'on la trouve dans le commerce est suffisante pour nourrir 70 ans de travail avec des changements de médium, avec des changements de pigments, mais finalement peu de besoin de changer ces matériaux-là pour vous?
D'abord, le commerce produit ce qu'on lui demande. Et de mon côté, quand je ne trouvais pas ce que je désirais, eh bien je l'ai fait. C'est là où je me suis aperçu que une couleur en poudre est tout à fait différente d'une couleur mêlée à un médium, à un fixatif. Et ça, quelquefois, c'est une surprise. On découvre. J'étais là un jour, chez un marchand de couleurs que j'avais créé au départ. Adam, qui était un marchand de couleurs à Montparnasse, au départ, était ce qu'on appelle une droguerie. Pour des produits de vaisselle, choses comme ça. Et il y avait aussi une petite vitrine, toute petite, avec des minuscules tubes de couleurs dedans. Je l'avais acheté, et je me suis aperçu qu'il y avait une couleur qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et quand on cherche ce qui est cette couleur, c'est de l'oxyde de fer. Et seulement, l'oxyde de fer, c'est très varié. Il y a des tas de stades de l'oxydation qui font que le verre est plus ou moins rouillé, plus ou moins rouge, plus ou moins. Et cette couleur-là, on ne la retrouve toujours pas. Je ne la recherche plus, mais je l'ai recherchée un certain temps. Et j'étais là aussi, chez ce marchand de couleurs, qui était devenu un fournisseur pour artistes. C'est moi qui lui ai montré ce qu'il fallait qu'il se fasse faire à menuisier pour avoir des châssis. Et il s'en est souvenu pendant des dizaines d'années. Du conseil que je lui avais donné, qui avait fait que de sa petite boutique, il est devenu un fournisseur pour artistes, puisque d'autres artistes se sont fournis là. Et alors un jour, le fils d'une amie, le fils de Fred et Marie Raymond, est arrivé, et devant, il y avait une espèce de sac où il y avait du bleu outre-mer. Et il dit, oh là, ce bleu, dit-il, ce bleu, mais ce bleu, évidemment, c'est du bleu trouvé en poudre. Il avait été frappé, étonné, par la qualité d'une couleur qui n'est pas mêlée à un médium. Alors ce garçon, c'était le fils de mes amis, c'était Yves. D'ailleurs, par la suite, il a employé tel quel.
Et il a même déposé un brevet.
Oui. Puisqu'on parle de couleurs, tout de même, Pierre Soulages, il y a cette, je sais que vous l'avez souvent raconté, mais il y a ce jour de janvier 79 où vous travaillez et où vous sentez que ça ne va pas, vous revenez et tout d'un coup, je vous cite un de mémoire, le noir avait tout envahi.
Oui, j'ai toujours aimé le noir, utiliser oui. Le noir. Je n'ai pas toujours rendu compte de ce que j'aimais dans ce qu'on appelle le noir. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Mais c'était dans les années 70 où j'étais en train de peindre avec... J'avais une toile qui progressivement c'était couverte de noir. Et je continuais, j'étais pas heureux. Parce que ce qui se passait était trop loin de ce que j'espérais. Et je suis allé dormir pas très longtemps. Et après une ou deux heures, je suis allé voir ce que j'avais fait. Et j'ai découvert que, au lieu de me désoler devant ce que j'étais en train de faire, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, d'ailleurs, de l'importance de ça. Mais je me suis aperçu, en tout cas, que ce que je faisais, ce n'était pas avec du noir que je le faisais, mais c'était avec la lumière réfléchie par des états de surface d'une couleur noire. Et alors, c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que, pas clairement, et c'est maintenant que je m'en rends compte, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, je me suis rendu compte que je faisais une autre peinture. Dans la mesure où on regarde ce que je fais, c'est du noir, mais si on est attentif à ce qu'on voit, on s'aperçoit qu'il y a des différences considérables. Et alors, maintenant, je me suis rendu compte que ma peinture n'était plus comme elle était sur une surface, ni donnant l'idée de la profondeur, que ma peinture se passait devant, et que celui qui regarde ma peinture est dans ma peinture. Et si celui qui regarde fait un pas de côté, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est aussi une chose importante. La peinture que je fais était riche d'une foule de possibilités, dont une de celles apparaît au moment où on est. Donc, elle est multiple, et ce qui se passe est devant elle. Et je crois que maintenant, on commence à se rendre compte de la particularité de ce travail-là. Il y a quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qu'on appelle la peinture.
Il y a aussi le fait, Pierre Soulages, que pour les personnes qui n'ont jamais vu en vrai vos peintures, qui ne connaissent que les reproductions, ils ratent des choses essentielles qui sont les questions de profondeur, de relief, de densité. C'est un paysage aussi.
Oui. C'est très vaste. C'est même une manière de peindre, de montrer la peinture qui est ouverte à des foules de vues particulières. Et ce que je fais, qui continue à m'intéresser, ça appartient à cette manière de voir. Et avec tout ce qu'elle ouvre, d'ailleurs, de possibilités artistiques. Ce qui m'amuse, c'est que depuis quelque temps, il y a des gens de science qui s'intéressent à ce que je fais. Il y a eu même des expositions dans à l'École polytechnique de Lausanne. Il y a eu plusieurs groupes de physiciens qui ont étudié ce que je fais, qui ont même organisé une grande exposition.
Il y a un dialogue avec ces scientifiques, du coup.
Oui. Dès le début, j'ai dit qu'une œuvre d'art, la réalité d'une œuvre, c'était certes les couleurs concrètes, le mur sur lequel elles sont, ou la toile, ou ce qu'on veut, un homme qui les a faites, et un troisième qui regarde. Et que la réalité d'une œuvre, c'est aussi la présence du spectateur. Le spectateur fait partie de l'œuvre.
Mais de façon intéressante, dans ce dialogue avec les scientifiques, quand ils avaient organisé un colloque à l'École polytechnique de Lausanne, au moment de l'exposition, moi je m'étais beaucoup disputé avec les physiciens qui étaient là, parce que précisément, ils ne prenaient absolument pas en compte le fait que le spectateur est essentiel dans le rapport à l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils pensaient, ils ne voyaient dans les toiles qu'une espèce d'essence de la lumière et du noir. Ce qui me frappe, c'est que c'est plutôt les scientifiques qui apprennent de votre peinture que vous qui apprenez quelque chose des scientifiques. Il y a beaucoup d'artistes qui regardent la couleur ou qui regardent l'utilisation du matériau à partir de ce que les scientifiques leur en disent. Mais chez vous, on a l'impression que c'est dans le faire de la peinture que se passe cette pensée et qu'ensuite ça se développe de façon très, très large.
Je vois quelqu'un qui est, que vous avez bien connu, je pense, c'est Pierre Encrevé.
Oui.
Il a dit des choses très bien là-dessus. Et j'ai aussi un ami qui est physicien, David Quéré. C'est un physicien important, d'ailleurs. Il vient de découvrir, chose qu'on ne connaissait pas encore, ce qu'il y a dans une goutte d'eau. Penser qu'une goutte d'eau puisse recéler des choses qu'on ignore, c'est difficile à comprendre depuis que ça existe. Et il vient de montrer et de découvrir son labo, le labo qu'il dirige, qu'il y avait, pour simplifier, un moteur dans une goutte d'eau. Et cet ami apprécie ma peinture et en parle très bien. Et c'est un physicien. Un physicien qui est ouvert à l'art. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la manière dont un scientifique de haut niveau, comme lui, a un regard intéressant, et non seulement intéressant, mais qui correspond aussi à ce que je fais. Moi, je ne me préoccupe pas de ça. Je suis content, quand même, heureux de voir que ce que je fais est bien considéré, en tout cas, bien, en tout cas, vit, et vit d'une manière intéressante chez des gens qui sont ouverts à ce que l'on ne connaît pas.
Puisqu'on parlait de spectateurs, Pierre Soulages, il y a cette grande exposition qui aura donc lieu au Louvre, qui ouvrira le 11 décembre. Alors, il y a Pierre Encrevé, qui était là au départ, il y a Alfred Paquement, il y a vous. Mais comment choisir les toiles qu'on va montrer? Comment?
Je ne me suis pas mêlé. C'est...
Vous n'en êtes pas mêlé? Vous n'avez pas voulu?
C'est eux qui se sont débrouillés. Paquement et Pierre Encrevé. C'est une exposition, c'est qu'on montre, on décide de montrer, ou un groupe d'amateurs décide de montrer une œuvre à un public. Pour moi, une exposition, c'est ça. Quand je pense que je fais une toile, je sais qu'elle est faite pour être vue. Mais je ne pense pas à une exposition ni à une démonstration quelconque.
À propos de choix de toile et d'accrochage, Éric de Chassé, ici présent, a présenté deux fois une toile un peu particulière, une toile blanche au Musée des Beaux-Arts de Lyon et à la Villa Médicis. Cette toile, elle a une place particulière pour vous, Pierre Soulages?
Oui, parce que je pensais que les différences de lumière qu'on pouvait avoir provoquées par une surface qu'on appelle blanche pouvait être intéressante. Et effectivement, mais je trouvais que ça ne m'amenait nulle part. Alors c'est une tentative, donc j'aurais pu me passer de la montrer, hein, c'est sûr.
Je me souviens d'une fois, il y a très longtemps, où Bernard Cesson, qui était à l'époque directeur du musée d'art moderne de Saint-Étienne, m'avait dit, vous voyez, chez Barnett Newman et chez Soulages, il y a une question de rapport au temps et à l'éternité, au fait qu'on est devant des œuvres qui sont fondamentalement présentes. Et il m'avait dit, la différence, c'est que chez Barnett Newman, c'est comme si le temps n'existait pas, comme si l'histoire n'existait pas. Alors que chez Soulages, et c'était devant une toile de 1967, je crois, qui est au musée de Saint-Étienne, chez Soulages, c'est comme si le temps était entièrement ramassé dans un seul instant. Et donc ma question, elle a à voir avec cette idée-là, elle a à voir avec le fait que le dialogue, vous parlez souvent de votre rapport à la préhistoire, et que cette inscription dans une histoire de l'art très longue, de plusieurs dizaines de siècles, et pas seulement le temps du Louvre, le temps d'une histoire qui a commencé bien avant ce qui est montré au Louvre, est pour vous très, très importante. Alors je ne sais pas dans le moment du travail, mais je pense que dans les œuvres, il y a quelque chose de cet ordre-là.
En tout cas, dans le moment du travail, ces grandes questions ne sont pas consciemment présentes. Je dis bien consciemment, parce qu'il est probable qu'elles fassent partie des réactions que j'ai et des choix que je fais. Mais je ne sais pas les analyser, ni savoir d'où ça vient. Ça ne me paraît pas utile, d'ailleurs. Quand on parle du temps, on parle de l'éternité, quand on parle de choses comme ça, c'est pas toujours la même chose dont on parle.
Mais est-ce que le temps de la peinture, il est différent du temps de la vie extérieure?
Qu'est-ce que c'est que le temps? Si j'ai un ami astrophysicien, et tout le monde sait quand même, ou a une idée de ce qu'est une galaxie. Le Soleil étant une petite étoile d'un très grand nombre d'étoiles qui se trouvent dans une galaxie, qui s'appelle d'ailleurs la Voie lactée. Alors, cet ami avait à sa disposition, à l'époque, c'était un instrument important, le télescope Hubble. C'était un outil qui est maintenant dépassé, mais qui a donné quand même quelques résultats. Et il l'a eu à sa disposition pendant 6 jours. Et il a embarqué son télescope sur un point de notre galaxie, grand comme un chat d'aiguille. C'est impossible à imaginer. Et par ce point-là, il ne les a pas comptés, mais il a vu une foule d'autres galaxies qui sont passées, et des galaxies qui avaient l'importance ou plus ou moins de la Voie lactée. Quand on en revient à la vitesse de la lumière, quand on en revient à ces mesures-là, ça rend méfiant devant les idées qu'on peut se faire. Ça, c'est peut-être pas le contraire, mais c'est quand même très, très loin et très différent de la goutte d'eau.
Mais à l'inverse, moi j'ai l'impression qu'il y a une fraction de seconde entre l'homme de la grotte de Chauvet et vous. Il y a toujours un geste, et il y a toujours une trace de ce geste.
Et dans le temps, d'ailleurs, je me sens probablement plus proche de Chauvet que des nouvelles traces d'hommes. C'est comme ça que j'appelle ces peintures-là, qui datent depuis bien avant Chauvet. Je suis peur de dire des bêtises, mais les gens mieux renseignés que moi savent très bien, en tout cas, quelles sont ces traces que l'on attribue à une humanité, c'est-à-dire à des hommes qui sont nos parents. Ça ramène toutes ces questions de... Il y a des philosophes pour ça.
On parlait de la grotte Chauvet. Est-ce que le fait que, désormais, on pense que les plus anciennes peintures connues sont des peintures de l'homme de Néandertal, pour vous, ça a changé quelque chose? Ou en fait, ça ne change rien?
C'est une mesure de notre ignorance qui mesure une démesure. C'était en Espagne, je crois. On a trouvé des peintures qui sont aussi loin de la grotte Chauvet que la grotte Chauvet de nous.
Mais est-ce que ça vous importe, ou est-ce que vous pensez au fait que des femmes, des hommes puissent voir vos peintures, Pierre Soulages, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans?
J'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais pensé ça. J'ai pensé comme ça. Ce qui m'importe, c'est qu'elle soit vue, c'est vrai, par des gens de maintenant, aussi bien des gens comme je peux être, ou bien comme je n'imagine pas.
Merci à Pierre et Colette Soulages de nous avoir accueillis pour cet entretien exceptionnel mené en compagnie d'Éric Dechassé. Vous pourrez trouver dès demain en kiosque la version écrite de cette rencontre dans le nouveau numéro de Vanity Fair, partenaire de cette dispute spéciale Soulages. Et je vous rappelle bien sûr que la grande rétrospective du peintre ouvrira le 11 décembre au Musée du Louvre et se poursuivra jusqu'au 9 mars 2020. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Montage Séverine Cassard et Alexandre Fougeron. Réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions ou vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature.